Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Ben non, Vincent, c'est nous qui t'avons engagé. Nous, les drôles des dames, partons sur le terrain pour faire un travail d'information approfondie sur l'actualité de notre région et pays. Nous analysons, invitons et mettons en lumière également des nouvelles pistes pour une nouvelle ère qui s'annonce, invitant à un débat contradictoire, pluraliste. Avez-vous un projet de construction d'une nouvelle société? Merci de contacter Fréquence 7. Marie est partie en mission pour nous parler sur l'intelligence artificielle.
Hello, bonjour. Je suis très contente d'être à nouveau avec vous pour cette nouvelle émission. Alors, avant de parler quand même de l'intelligence artificielle, j'aimerais que nous fassions ensemble un état général de la santé publique. En 2023, la situation me semble catastrophique. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude et Antonia? Ah, Vincent et Antonia, c'est Vincent aussi.
Un cinquième de la population vit dans des déserts médicaux. 21 000 lits fermés depuis 2017. Plus de 15 000 postes vacants dans les hôpitaux.
Oui, il y a 8 500 étudiants formés en médecine par an, alors qu'il en faudrait au minimum 12 000. Et en fait, depuis 2018, il y a un nombre croissant d'infirmiers. Et il manque des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes. Et il y a deux tiers des médecins généralistes en France qui ont déclaré ne pas pouvoir accepter de nouveaux patients. Donc, on se noie.
Oui, en 20 ans, la France a perdu plus de 340 maternités sur un peu plus de 800. Accoucher en zone rurale est devenu le parcours de la combattante. Les maternités ferment et sont parfois remplacées par un centre périnatal de proximité qui sert à suivre les femmes avant et après l'accouchement. Dans ces centres, les soignants y sont rares et les gynécologues n'y assurent que quelques heures par semaine. Aucun accouchement ne peut se faire sur place.
Et les services d'urgence qui ferment à la nuit à cause du manque du personnel.
Oui, on a vu des patients qui décèdent sur des brancards, une situation qui s'aggrave et des décès dits évitables.
Tout ça, quand même, ça implique qu'on laisse de plus en plus de place au privé lucratif. La santé, elle devient une activité marchande comme les autres, en fait. C'est-à-dire que nous dirigeons vers un système de santé à l'américaine, en fait. Les dépenses de santé sont 50% supérieures aux nôtres, mais où l'espérance de vie est en chute libre. C'est-à-dire qu'en fait, on paye plus cher nos accès à la santé, aux soins, mais on meurt plus. C'est fou, quand même.
Oui, un peu. Le manque d'attractivité des zones rurales, la baisse d'activité des hôpitaux, l'absence de mesures incitatives, des décennies de régulation du nombre d'étudiants en médecine via le numerus clausus. Les responsabilités sont partagées. Ministre de la Santé, Sécu, l'Ordre des médecins, les médecins eux-mêmes. Effectivement, notre santé publique est bien malade.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Dans un même temps, l'intelligence artificielle fait de plus en plus parler d'elle. Des nouvelles perspectives s'ouvrent en médecine. L'IA devrait permettre d'affiner le diagnostic des patients, de mieux identifier les risques à venir. Google a développé une IA qui permet d'effectuer un scan de votre rétine. Des données sont confiées à la machine, âge du patient, s'il fume ou non, sa tension artérielle, ainsi que des renseignements sur son mode de vie. À partir de tout ça, la machine peut identifier les risques cardiaques du patient. Avant ça, il y avait tout simplement un examen clinique et un questionnaire. Une autre IA, appelée MediMatch, sera spécialisée dans la recherche des AVC. Dans la société O'Quinn, un oncologue américain et un mathématicien français décident de travailler ensemble. Ils veulent créer une IA capable de chercher des traitements plus efficaces contre le cancer. Cette intelligence artificielle répertorie plus de 10 millions de dossiers de patients atteints de différents cancers. L'idée est de déterminer les traitements qui ont le mieux fonctionné. DeepMind, filiale de Google, a lancé une IA capable de détecter les signaux biologiques annonçant une dégradation de la santé. Nourrie avec 700 000 dossiers de patients, elle pourrait aider à détecter les éventuels effets secondaires liés aux traitements proposés par les hôpitaux. Voilà une vingtaine d'années que la robotique est entrée dans le domaine de la chirurgie. Depuis les années 70, il y a un glissement vers une technicité de certains actes et de certains raisonnements qui sont aidés par des algorithmes. L'IA, au cœur de la médecine du futur, aide au diagnostic, chirurgie assistée par ordinateur, robots médicaux, médecine prédictive, anticipation d'une épidémie, triage des patients, développement de nouveaux traitements. On pense aussi à adapter une IA qui donnerait la possibilité pour des personnes âgées ou dépendantes d'avoir un robot de compagnie. On s'aperçoit qu'il y a deux courants, deux sortes de partisans de l'intelligence artificielle. Il y a les partisans d'une IA forte, leur but créer un robot doté d'une intelligence semblable à celle de l'être humain. Il y a les partisans de l'IA faible, leur but est de créer simplement des machines capables d'aider les humains dans leurs tâches diverses. Pour l'instant, c'est encore le courant le plus exploité. Ces machines ne sont pas autonomes dans leur adaptation. La décision revient à l'humain. À ce stade, je crois qu'il faut garder un œil critique. L'innovation, pourquoi pas, mais une innovation calculée, évaluée, réfléchie, mesurée. Une intelligence artificielle pour une consultation à distance me paraît à peine croyable en état actuel. Beaucoup disent que l'IA n'est pas assez avancé pour avoir un jugement humain. Certes, peut-être pour optimiser un parcours de patient, mais de là à ce que cette intelligence artificielle prenne une décision médicale, ça peut faire très peur, rien que d'y songer.
Les maladies apparaissent et disparaissent, elles évoluent, mais est-ce que les risques d'erreur sont pris en compte ?
N'y a-t-il pas des possibilités que des têtes pensantes imposent leur point de vue, détournent l'utilisation ou se servent de l'intelligence artificielle pour une mauvaise cause?
En voilà des bonnes questions. Bien sûr, je ne sais pas qui pourra y répondre, mais je me les pose aussi. Ce que je sais par contre, c'est que l'humanité fait parfois des avancées qu'elle ne contrôle pas toujours. Dans tous les cas, la science médicale, c'est une opportunité de business qui séduit énormément, mais nous, pauvres patients, lorsque nous voyons notre système de santé dans une telle dégradation, tel qu'il est aujourd'hui, nous aimerions avoir un peu plus de moyens humains dans nos hôpitaux, un peu plus de médecins. On aimerait plutôt faire reculer les déserts médicaux. Nous ne voulons plus de services qui ferment et surtout pas d'un parcours de soins déshumanisé. Alors, la boîte à outils d'aujourd'hui, c'est la santé, bien sûr, c'est sur la santé. Donc, sur le site de l'assurance maladie, vous trouverez un annuaire santé qui répertorie les médecins par spécialiste. Vous n'avez pas de médecin traitant, vous n'en trouvez pas, aucun ne vous accepte. Il faut vous rapprocher du conciliateur de votre caisse primaire d'assurance maladie. En cas d'erreur de diagnostic ou d'erreur médicale, vous pouvez porter plainte auprès de la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche, ou alors vous pouvez écrire au procureur de la République du tribunal compétent. Le délai de prescription après une erreur médicale, d'après la loi Kouchner du 4 mars 2002, est de 10 ans pour tout acte médical ayant eu lieu après septembre 2001, aussi bien dans le public que dans le privé. Vous n'êtes pas satisfait de votre prise en charge dans un établissement de santé, vous pouvez vous adresser à la commission des usagers. Cette commission a pour principale mission de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter les démarches. Elle peut informer sur les voies de conciliation et de recours. Vous pouvez contacter le médiateur médical de l'établissement. Pour l'hôpital d'Aubenas, par exemple, vous pouvez soit écrire au directeur du centre hospitalier d'Ardèche méridionale, 16 avenue de Bélande, soit faire un courriel aux représentants des usagers. Le mail représentant des usagers tout attachés, @ch-ardèche-méridionale.fr. Si vous souhaitez attirer l'attention sur des questions relatives à la sécurité, à la santé, au bien-être des usagers, vous pouvez vous adresser à l'Agence régionale de santé, ARS. Pour nous, elle se trouve à Privas. L'ARS ne verse pas d'indemnisation, mais signalera votre mécontentement et pourra aider à trouver une solution amiable. Et si malgré cela, on ne vous écoute pas, rejoignez-nous, ensemble, c'est mieux. C'est dans les tuyaux.
Bonjour, c'est dans les tuyaux. Aujourd'hui, 3 octobre, j'aimerais vous donner la définition du poker menteur. Action ou manœuvre visant à tromper quelqu'un.
Ah ben, c'est la définition du jeu d'Emmanuel Macron. Ce qu'il nous mijote, France Travail, c'est acter attaque frontale contre les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les missions locales et les handicapés. Guichet unique. Si j'ai bien compris, ceux qui touchent le RSA vont travailler et ceux qui travaillent vont se retrouver au RSA.
Alors moi, j'ai quelques questions que je me pose. Est-ce que ceux qui ont une activité en dehors du RSA seront tous concernés, par exemple ? Parce que je pense notamment aux 11 000 bénéficiaires du RSA agricole. En fait, ce sont souvent des exploitants qui bossent déjà plus de 60 heures par semaine. S'ils ont le RSA, c'est qu'ils ont des faibles revenus et que les prix agricoles sont très bas. Est-ce que eux aussi devront faire 15 heures de travaux forcés supplémentaires ? Et à quel moment ils pourront les faire ? Le matin avant leur travail ? À la ferme ? Ou le soir après 21h ?
Oui, c'est vrai que ça pose question. Oui. C'est en fait de l'esclavage. Grosse discussion en ce moment à l'Assemblée nationale, mais la droite s'enferme dans...
Oui, on est en plein dedans.
Oh, ouais, Ciotti, qui gagne en tant que questeur de l'Assemblée nationale, qui gagne 10 000 euros par mois, est en train de martyriser les gens qui en gagnent 600. Il faut réfléchir à ça aussi. Du côté de la santé. Santé, fermeture de lits cet été, personnel épuisé. Les soignants hospitaliers exigent plus de moyens pour la prise en charge des patients. Demande des conditions de travail dignes et une revalorisation des salaires. Branche maladie de la sécurité sociale. Le gouvernement culpabilise les malades en les accusant de dépenser d'une façon irresponsable, justifiant ainsi la hausse du reste à charge. Et en même temps, le ministre délégué à l'industrie fait un cadeau aux industriels. Cadeau qui s'élèverait à 100 millions, ensuite 400 millions et à terme 1,5 milliard. On ne donne qu'aux riches. Pour nous, le doublement de la franchise, on passe de 50 centimes à 1 euro sur une boîte de médicaments. Augmentation des forfaits de consultation qui pourrait rapporter au budget 400 millions d'euros.
Oui, d'ailleurs, en parlant du budget, j'ai lu quelque part que la fermeture des urgences la nuit obligeait le centre des pompiers d'Aubenas à faire des trajets plus longs, puisque Aubenas étant fermé, ils doivent emmener les personnes secourues sur Privas, Alès, Montélimar ou Valence, suivant les cas. Et de plus, il y a des dépassements d'horaires pour les pompiers qui sont là et qui vont aller chercher les patients. Donc, les personnes qui sont en difficulté, il faut les amener. Il faut être prudent pour suivant ce que c'est, s'ils ont des problèmes cardiaques ou pas, ou autre chose qu'il faut rouler lentement. Donc ils font des dépassements d'horaires. Et tout ça représente un coût estimé de 50 000 euros à la charge essentiellement du département. C'est déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est toujours du n'importe quoi.
Et là, le gouvernement va rajouter le chaos au chaos. Il va vraiment falloir qu'on se détermine, savoir si on subit encore. Alors c'est toujours dans les tuyaux. Commission d'enquête contre la maltraitance dans les crèches privées. Les députés pourront bientôt se prononcer sur la création d'une commission qui pourra faire la lumière sur la maltraitance que les enfants subissent à cause de la marchandisation de ce secteur. Je vous recommande 2 livres, Babysness et Le prix du berceau. Environnement, le 12 octobre 2023, l'Union européenne vote pour la réautorisation pour 15 ans du glyphosate. Roundup, Monsanto, Bayer. Il est encore temps de signer les pétitions et à votre bon cœur, messieurs, dames, 15 ans encore de cochonnerie.
C'est fabuleux tout ça parce qu'on continue à nous bousiller la santé avec des pesticides. Et de l'autre côté, bon, on nous crée des IA qui vont nous soigner à merveille. Les robots nous soignent et les humains nous tuent.
Ouais. Et les labos pharmaceutiques s'en mettent plein les fouilles. N'oublions pas les courageux militants en grève de la faim qui résistent contre le tracé de l'A69 dans le Tarn, des arbres multicentenaires abattus. Au total, plus de 310 hectares seront artificialisés. C'est un écocide.
La novlangue.
Alors la novlangue, on dit aussi le néo-parlé. C'est la langue officielle d'Océania, inventée par George Orwell pour son roman d'anticipation 1984. Cette langue imaginaire, utilisée souvent aujourd'hui, permet de supprimer toutes les nuances d'une langue et de renforcer l'influence de l'État. Elle permet également d'éliminer toute réflexion sur la complexité d'un problème. Si tu n'es pas pour, alors tu es contre. Il n'y a plus de juste milieu. Cette novlangue est distillée partout, de la langue de bois des politiques jusque dans les entreprises, en passant par le monde de la santé et de l'enseignement. Quelques exemples tout d'abord dans la politique. Au sujet de réduire l'éclairage des monuments de Paris pour réduire la consommation, Elisabeth Borne, qui n'avait pas de position bien arrêtée, dit, je cite, « Cette mesure mérite d'être regardée, mais elle risque d'impacter l'attractivité touristique d'une ville. » Une tournure avec le mot « impacter », un anglicisme qui vient du jargon commercial. Macron, sur l'enseignement supérieur, dit le 14 avril 2017 « Je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. » On ne dit plus « travailler pour le pays », on dit « faire France ». Si vous voulez parler novlangue, ne dites plus « construire la société française », dites plutôt « le nous inclusif et solidaire ». Cette chose incompréhensible figure dans un rapport rendu en 2013 dont le titre est « Refonder la politique d'intégration ». Nos politiques utilisent tellement de mots, d'expressions détournées, de leur fonction première que les Français ne les comprennent plus. Leurs mots ne les touchent plus. Certains disent qu'en fait les politiques ne leur parlent pas vraiment à eux. Les politiques, lorsqu'ils veulent nous faire enregistrer une idée, trouvent un mot et le répètent sans fin. Ils utilisent des euphémismes, tels que « altercation », pour une attaque par exemple à la voiture bélier. « Association », ce mot ne désigne plus un rassemblement paisible de citoyens autour d'un projet commun, mais des groupes de pression organisés et financés par les pouvoirs publics. Un autre exemple. Valérie Pécresse, en 2017, dans cette période de turbulence, nous avons une très faible visibilité sur les perspectives de croissance de l'année prochaine. Macron emploie le terme « état de droit », un déni de violence policière, je cite « Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit ». Amnesty International, dans un article, soulève le fait qu'en parlant du flashball, on dise « arme à létalité réduite ». Parce qu'évidemment, qui tue parfois, ça sonne moins bien. J'ai remarqué aussi qu'on n'employait plus le mot de bavure, on dit plutôt « dommage collatéral ». Et pour un délit de fuite, évidemment, c'est devenu un refus d'obtempérer. Dans la santé, on ne parle pas de fermeture de service. On parle de réguler l'offre de soins. Le tout comptable devient l'économisation. On dit initialiser pour commencer, finaliser pour finir. C'est tellement plus simple. Gouvernance pour direction, problématique pour problème. Vouloir, c'est s'engager dans une démarche volontariste globale. Poursuivre devient adapter une logique de consolidation. Dans les faits, nos soignants ont bien du mérite. Lorsque la gouvernance leur parle d'un changement permanent ou d'une évolution continue dans un contexte d'économisation. Je leur souhaite à tous et toutes bon courage.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Culture et Moi. La Culture et Moi, c'est quoi ? C'est une chronique culturelle. Chaque mois, nous parlerons cinéma, théâtre, musique. Bref, nous parlerons culture. Et on commence tout de suite. J'aimerais vous parler de rap. Ah oui, le rap, cette musique de la rue, venant des quartiers populaires. Faisons déjà un petit historique du rap. Et après, nous allons pouvoir nous rendre compte que le rap, c'est pas ce que vous croyez. Les gens qui font du rap, ils en ont là-dedans. Alors, commençons d'abord avec le hip-hop, qui fait ses débuts aux États-Unis vers la fin des années 1970. Cette musique, elle est née dans les ghettos noirs américains, à l'époque des Black Panthers. Le rap apparaît ensuite en France, au début des années 1980, dont la diffusion est alors limitée à quelques radios pirates. Et au début des années 1990, aux États-Unis, c'est la naissance du rap avec un esprit plus revendicatif, où les textes prennent une grossière importance. Le style musical évolue et on assistera à la naissance des monstres sacrés, comme le Wu-Tang Clan, Dr. Dre ou Snoop Dogg. Une chose qu'on ne sait pas forcément, mais en France, on s'est vachement inspiré de la musique classique pour des morceaux de rap. On a fait des samples. Sample est la traduction d'échantillon, en anglais. Le sampling est une technique créative basée sur l'utilisation d'extraits sonores préexistants afin de créer une nouvelle composition. Partons maintenant en direction l'ouverture de l'opéra Der Freischütz de Karl Maria von Weber. Et ça nous donne Stupéflip vite de Stupéflip. Maintenant, allons voir Chopin avec son prélude Open 8, numéro 4 en E mineur. On l'accélère et on obtient That's My People de Supreme NTM. Toujours avec Chopin, mais cette fois-ci avec la nocturne numéro 20 en C-sharp mineur. Ça vous donne Bodies de Gazo et Damso. Tendez l'oreille, on écoute. Voilà, en conclusion, le rap ce n'est pas juste du deal et des grossièretés. C'est beaucoup de culture et de musicalité.
Toi, une recommandation, Vincent, c'est ça ?
Oui, c'est ça, une recommandation littéraire lecture. Arthur Teboul, le chanteur du groupe Chatterton, nous cueille avec son ouvrage. Entre les phases d'écriture des chansons de ses albums, il a pris l'habitude de composer ce qu'il appelle des poèmes minutes, lors de séances de déversement ou d'écriture automatique, entre le poème en prose et le récit onirique. Ce sont de courts textes dont les idées et les émotions sert les protagonistes, riches en inventions, pleins de mystères, de vivacité, de drôlerie, d'étrangeté et de beauté. Il compose ce recueil qui s'intitule Le Déversoir, Poème Minute, aux éditions Seguer. On écoute Claude qui nous lit un extrait.
En toute simplicité. Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie, cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir nous éreinte, là restons assis, au milieu du labyrinthe, sans chercher l'issue. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici. La porte joliment peinte, on tombera dessus. Suivre une trace, une empreinte, nous pouvons, ma fille. Mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend aussi.
Merci bien, moi je vous dis à la prochaine, la culture, elle et moi, ça me va.
Merci.
Oui, t'as encore quelque chose à dire ?
Oui, rapidement, on est au mois d'octobre. Juste pour vous dire qu'en France, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Il représente 33% des cancers féminins et 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.
L'âge médian du diagnostic est de 64 ans. Alors énorme, minuscule, galbé, vos seins sont parfaits tant qu'ils sont en bonne santé. Faites-vous dépister, consultez votre médecin ou une sage-femme, c'est important.
Merci Vincent. Notre prochaine émission dans 5 mois, pour tous vos projets, infos et autres, merci de contacter Fréquence à 7. Merci Vincent, merci les filles.
Mission accomplie.
Rendez-vous au mois de novembre.
Il était une fois, 3 filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.